19e conférence Alter Mardi, parlons solutions, indépendance des médias, une alternative qui presse. Alors que le quotidien national Le Monde a été racheté par Pierre Berger, la banque Lazare et le fondateur de Free, le journal Libération par Édouard de Rothschild et que le Figaro appartient aux marchands d'armes Dassault, alors que la presse quotidienne régionale voit les petites annonces, soit une part de ses revenus, lui échapper au profit d'Internet, quid de l'information et de ceux qui en font le métier ? Avec pour invité Marc Mantré, responsable de la section journalisme à l'École des médias de l'information et blogueur spécialiste des médias, Géraldine Delacroix, journaliste à Mediapart, Jacques-Marie Bourget, responsable de Bakchiche.info.
Marc Mantré, mieux vaut observer la presse et commenter ce qui lui arrive plutôt que d'essayer d'en vivre, peut-être non ?
Ah, ça c'est une bonne question ça. Oui, en ce moment c'est assez difficile d'être journaliste et d'en vivre.
Enfin. Marc Mantré, responsable de la filière journalisme à l'École des métiers de l'information et blogueur spécialiste des médias.
Faut pas exagérer quand même, hein. Il y a quand même encore 1600 journaux en France, 1600 journaux plus 1600 journaux professionnels, donc il y a quand même 40 000 journalistes qui en vivent de ce métier.
La désaffection pour les journaux, ça revient à une désaffection pour l'information ou pas ?
Non. Très clairement, les gens sont toujours passionnés d'information. En revanche, ils ne s'y retrouvent pas en fait dans les journaux tels qu'ils sont faits actuellement. Pour moi, c'est très simple. L'offre ne répond pas à la demande.
Est-ce que vous pensez que les gens aiment encore s'informer ?
Non.
Jacques-Marie Bourget, responsable de Bakchiche Info.
Non, définitivement non. J'ai une intime conviction, c'est qu'il y a une érosion de l'information, de la connaissance, du savoir. La presse d'opinion a disparu. Il y a une espèce d'eau tiède ou de programmes moyens télévisés qui suffit, un petit peu d'Internet. Puis il y a quelques maniaques qui vont chercher des choses un peu plus pointues, mais qui sont complètement marginaux. Donc moi, je pense que l'information n'intéresse plus les gens.
Les gens s'informent, mais par des biais autres maintenant, hein, par les blogs, par Twitter, par leur Facebook, par des choses comme ça. Mais ils s'informent, ils continuent à s'informer.
Le fait d'appartenir, vous, à Mediapart, c'est plus un choix intellectuel ou un choix de support, en fait ?
C'est un peu les deux. En fait, quand je suis arrivée à Mediapart, j'étais déjà sur le web.
Géraldine Delacroix, journaliste à Mediapart.
Depuis l'année 2000, je suis arrivée à Mediapart en 2009, donc aujourd'hui ça fait 10 ans d'Internet derrière moi. À l'époque ça faisait que 9, mais il n'était pas question pour moi de faire autre chose que du web. Donc sur le web, Mediapart, voilà, ça me paraissait particulièrement intéressant, puisque justement c'est le journalisme de qualité que j'avais toujours cherché à pratiquer auparavant, donc dans la presse écrite. Et puis ensuite j'étais sur le site de Libération. Et voilà, j'avais envie de rester dans cette exigence.
Après, ils sont peut-être intéressés par d'autres choses qu'il y a dans les journaux et peut-être pas de l'information politique pur jus, par exemple, qui est traditionnellement l'information noble dans la presse.
Qu'est-ce que c'est que la véritable information, alors ?
L'information, c'est le fonctionnement du monde. C'est savoir comment ça fonctionne, quel rouage, qui opprime qui libère qui.
On n'est pas prêt de payer un petit peu, pas si cher que ça, pour savoir qui nous opprime, qui nous mène par le bout du nez.
C'est vrai qu'on a des journaux qui sont très chers, parce que on est parmi les quotidiens les plus chers du monde. Et par ailleurs, il y a une espèce d'obligation de gratuité sur Internet qui fait que le modèle ne tient pas. On ne peut pas payer des journalistes sérieux qui fassent de la bonne information sur Internet et ne pas les payer. Donc on est actuellement dans une phase complètement folle. Peut-être que ça se stabilisera un jour, mais aujourd'hui, c'est assez sans espoir.
Est-ce que vous avez eu l'impression, au départ, en tous les cas, d'être un petit peu dans la résistance, de faire un acte de résistance par rapport à quelque chose ?
Cette impression, je l'ai eue au début du site web de Libération, en tout cas quand j'y suis arrivée, donc dans les années 2000 à 2005, où il y avait de très très gros débats en interne sur le basculement du journal et du journalisme sur le web. Et à cette époque, les débats étaient très très tendus. Il y avait par exemple le débat sur la gratuité. Beaucoup considéraient à l'époque que c'était un problème de mettre gratuitement en ligne le contenu d'un journal qu'on faisait payer par ailleurs dans les kiosques et pensaient que les gens n'iraient plus payer dans les kiosques à cause de nous, en gros, Internet. Un autre débat était la rémunération des journalistes qui étaient souvent amenés à travailler plus puisqu'on leur demandait de travailler à la fois pour le papier et pour le web. Le débat portait sur le temps de travail. Est-ce que c'est du travail en plus ? Est-ce que c'est du travail à la place ? Ce débat a eu lieu aussi avec les photographes et leurs droits d'auteur. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça dans le début des années 2000. Maintenant, j'ai l'impression que c'est passé et qu'il est clair pour tout le monde que l'information sérieuse peut exister sur Internet.
Ça veut dire que les journaux ne sont pas tout à fait libres et qu'Internet est beaucoup plus libre, ou simplement le journalisme n'est pas suffisamment rémunérateur, donc on n'enquête plus?
Alors, plusieurs choses. Les journaux en France sont effectivement, disons que la liberté est assez restreinte. On est un pays où des grands journaux, type Le Figaro, sont propriété de M. Dassault, hein, qui est un marchand d'armes. Donc il y a ça. Je prends l'exemple du Figaro, mais je pourrais prendre d'autres exemples, etc. Donc effectivement, il y a le groupe Lagardère, je veux dire, M. Lagardère est l'ami de M. Sarkozy. Donc effectivement, ça a des répercussions sur le traitement de l'information dans les journaux du groupe Lagardère. Donc ça, c'est une chose.
Est-ce que le fait que les journalistes ne soient pas forcément très bien payés pèse sur l'information?
Bien sûr, si on est mal payé. Il y a des journalistes qui continuent d'enquêter, mais il faut bien se représenter ce que ça représente pour un pigiste qui va, je ne sais pas, faire une enquête pendant 3 mois. Alors il va faire de l'alimentaire entre-temps, etc. Mais c'est sur ses propres fonds qu'il va devoir payer ses déplacements, payer le temps d'écriture, et sans être sûr, après, derrière, que son enquête soit prise par un journal. Donc c'est un investissement lourd, dangereux en ce sens qu'on n'est pas sûr d'être publié après. Donc effectivement, c'est un peu, disons qu'on est un peu borderline là sur cette affaire.
C'est la faute à qui? C'est la faute à Internet? C'est la faute au papier? C'est la faute aux journalistes? Parce qu'après tout, on pourrait très bien faire de la très bonne qualité sur...
Moi, je pense que c'est les journalistes qui ont perdu le pouvoir. Pendant très longtemps, les journalistes ont eu le pouvoir jusqu'en... un peu après 68, quoi. Et puis depuis, maintenant, c'est le journaliste qui était quelqu'un qui avait envie de dire des choses, de vivre une vie différente, qui était un peu à la fois un acteur ou un obsédé, qui refusait la carrière, s'est mis dans des cursus universitaires de connaissances, de je cite cela, avec au bout un rêve d'état social, de statut social, qui fait que les journalistes sont rentrés dans le rang et puis ils s'en foutent, quoi.
On a l'impression que vous parlez du cinéma. Il n'y a plus de grande gueule au cinéma parce qu'ils sont tous bien propres et bien coiffés,
oui,
c'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça, oui. Mais il y a une vraie analyse. Le niveau de recrutement du CFJ, vous verrez le statut social des parents qui mettent des mômes au CFJ, c'est effrayant.
Quel est pour vous le modèle le plus novateur aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs modèles novateurs. Vous avez par exemple ProPublica, qui est un site en fait, qui est financé par des fondations et qui fait de l'enquête. Là, vraiment que de l'enquête, et de l'enquête citoyenne, c'est-à-dire qui surveille ce que fait Obama, il surveille ce que font l'attribution des fonds publics, etc., etc. Donc ça c'est par exemple un système novateur. Je prends un exemple, je vais les prendre aux États-Unis, comme ça sera plus simple. Il y a aussi Gawker, c'est un site qui ne regroupe que des blogs experts, c'est-à-dire ce sont des experts qui sont réunis dans un site, mais qui chacun individuellement tiennent un blog. Hein. Donc c'est ce qui fait la qualité de ce site, c'est qu'en fait c'est une réunion d'experts. Il y a un troisième site que je vais donner comme exemple, qui est le Huffington Post, qui a été créé. Il y a 5 ans, c'était un petit blog de rien du tout, et maintenant c'est un site qui pratiquement talonne un site beaucoup plus prestigieux qui est le New York Times, hein, en termes de nombre de visiteurs uniques, c'est-à-dire de gens qui fréquentent le site. Là, c'est un site qui fonctionne avec 50 journalistes et il y a 6000 blogueurs qui collaborent au site. Donc ce qui fait une richesse incroyable sur le site. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont voir l'information qui est là-dessus. Ce qui compte, ce qui est très important là, vous voyez, c'est la diversité.
Est-ce que le fait que Mediapart soit un petit peu seul dans son cas de figure, le modèle Mediapart est aujourd'hui unique, il ne s'est pas encore créé, on va dire, d'émule. Pourquoi?
Ça reste toujours un énorme pari que de lancer un journal. Le nôtre est en passe peut-être d'être réussi, mais ça a été, les 2 premières années ont été plus délicates. Le paiement n'est pas encore très très bien installé dans l'esprit des gens. Je ne sais pas quel est le marché pour des sites d'informations payants. Et un des dangers pour les journalistes, c'est de rester dans une certaine confidentialité. Donc il existe une vraie interrogation de chacun qui va être: est-ce que je publie gratuitement pour beaucoup ou de manière payante mais pour moins de gens? C'est aussi une question importante.
Et puis il y a le côté journalisme citoyen aussi, où à ce moment-là le citoyen s'implique un petit peu.
Mais de toute façon, l'information maintenant elle est citoyenne, je veux dire. Il y a tellement d'outils de diffusion que l'information et les citoyennes. On n'est plus dans cette période où l'information appartenait aux journalistes. Ça, c'est fini, ça. On ne reviendra sans doute jamais sur la situation antérieure. Donc maintenant, c'est tout le monde produit de l'information. C'est tout bête, on a les instruments pour, hein. Il suffit d'avoir un téléphone portable avec une caméra et vous pouvez filmer une petite vidéo et l'envoyer soit sur un site, soit tout bêtement l'envoyer sur votre Facebook, etc. C'est de la production d'information, ça.
Ça veut dire qu'entre guillemets, par exemple, des professions dans le journalisme comme éditorialistes sont plus mises à mal que d'autres ?
Tout le monde est éditorialiste maintenant. C'est tellement facile d'être éditorialiste, veux dire, c'est de donner sa vision des événements et des choses. Ce qui est, par contre, là où le journaliste reste très très important, c'est que c'est le seul dont le métier et sa formation fait qu'il peut traiter l'information, hein, et lui donner du sens aussi. Prendre des informations brutes et lui donner du sens. Ça, c'est le métier de journaliste maintenant.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Parce que c'est pas de la faute à Internet au bout du compte.
Il faut aller recruter des journalistes dans les banlieues ou faire des quotas. On ne peut pas faire ça, là je dis n'importe quoi, mais d'origine sociale, ou favoriser des groupes sociaux français dont on puisse faire des journalistes et qui ne soient pas des fils de bourgeois, de petits bourgeois, des bourbeaux, et voilà, des gens pour lesquels la société est parfaite.
Avec Bakchich, qu'est-ce que vous essayez de faire ?
Diou disait que mon ennemi, c'est celui qui ne veut pas que le monde change. Mais il a raison, avec Bakchich, on est modeste, on ne va pas changer le monde. Simplement, on est une équipe de petits couillons, rêveurs, et sans sous et plein d'espoir, on essaie de faire turbiner notre petite chose pour dire quelques vérités, c'est tout. Hein. On n'a pas de plan quinquennal pour révolutionner la presse.
Il y a aussi la manière de raconter qui est très importante. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du talent naturel, mais en même temps, c'est des choses qui s'apprennent. Et surtout maintenant, avec tous les outils qu'on a, parce que c'est quand même très technique, quelque part, de raconter quelque chose en multimédia. C'est très technique et c'est un travail d'équipe aussi. Et donc, ça restera toujours, ça, je pense, du côté journaliste, parce que c'est trop pointu, quoi, en fait.
Hein. Le panorama des médias d'ici 10 ans.
Je ne peux pas répondre à la question. Personne ne sait ce que sera la presse dans 10 ans. Si vous voulez, il y a quelqu'un du Huffington Post justement qui avait dit « En fait, dans 12 mois, je ne sais pas ce que je ferai. » Je ne sais pas ce que je ferai. Et c'est peut-être la phrase à retenir « Dans 12 mois, je ne sais pas ce que je ferai. »